Quelle serait, Seigneur, mon histoire sans toi? Quelle serait l'histoire de mon frère et ma sœur sans toi? Quelle serait, Seigneur, l'histoire de ces lieux, l'histoire de la foi? Oui, sans toi, nous ne sommes pas. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons absolument rien. Alors aide-nous, Seigneur, à vivre, à expérimenter cette réalité. Aide-nous à dépendre totalement et entièrement de toi. Seigneur, que ce que toi tu as déclaré avant même que nous venions, que ce que toi tu as écrit à propos de notre destinée, que cela soit la seule écriture qui se réalise dans notre vie. Que nous devenions, Seigneur, des poèmes pour ta gloire. Des poèmes écrits par le plus grand poète de l'univers. Afin que notre vie, Seigneur, soit une réelle bénédiction pour les autres. Merci pour ce moment de louange et d'adoration. Combien nous aimerions, Seigneur, continuer à te louer. Continuer, Seigneur, à communier avec toi au travers de la louange, de l'adoration. Continuer, Seigneur, à respirer cette atmosphère saine, pure, puissante, vivante qu'il y a, ô Dieu, dans ton palais céleste. Mais il y a un temps pour tout, comme tu nous le dis dans ta parole. Un temps pour te parler, pour nous exprimer devant toi, pour nous abandonner entièrement, Seigneur, au pied de ton trône et te rendre tout ce qui t'est dû. Mais il y a aussi un temps où nous devons nous taire et faire taire toute autre voix, quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne, pour que seule ta voix puisse être entendue par chacun de nous et finir par retentir dans nos cœurs, dans notre vie, et par faire vibrer, Seigneur, tous les atomes, toutes les molécules de nos corps, toutes les cellules de nos corps, et nous mettre ainsi en résonance avec l'atmosphère du ciel. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut éteindre? Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien, comme promis, nous allons démarrer à partir d'aujourd'hui toute une série de prédications en rapport avec l'autorité de Dieu et l'Église de Jésus-Christ. Cette Église à laquelle nous appartenons, nous allons voir, je vais revenir là-dessus, c'est-à-dire sur la notion de l'Église de Jésus-Christ, puisque j'ai déjà eu à faire tout un séminaire là-dessus. Rappelez-vous, je bâtirai mon Église. J'ai déjà eu à parler de l'Église lorsqu'il a été question de sa nature, de ce qu'elle est véritablement, au travers de cette série d'enseignements sur l'Église de Jésus-Christ, Bethel ou Bethaven, c'est-à-dire maison de Dieu ou alors maison de tromperie, maison du mal, maison de néant. C'est l'un ou l'autre, n'est-ce pas? Pas le deux à la fois. Le Seigneur a horreur du mélange. Voyez-vous, ou soit nous sommes entièrement en lui, ou alors soit nous sommes de l'autre côté. Nous ne devons pas être tièdes, car si nous le sommes, nous finirons tôt ou tard par être rejetés, par être vomis par le Seigneur. Mais je reviendrai quand même là-dessus, pour que nous puissions comprendre tout ce qui va être dit dans la suite. Alléluia. Depuis plusieurs vendredis, le Seigneur nous visite puissamment. Je crois que tous ceux qui viennent à l'intercession, à la prière de vendredi au soir peuvent le témoigner. Le Saint-Esprit est en train de nous visiter puissamment. Vous voyez, au point où il nous a donné une vision concernant le triangle de la grâce. Je ne veux pas en dire davantage. Si vous voulez en savoir davantage, eh bien, venez le vendredi. Alors, si vous ne pouvez pas, suivez ça sur, en direct, sur les réseaux sociaux, sur nos sites, sur nos comptes. Alléluia. Et c'est donc dans cette vision-là où le Seigneur nous demande maintenant de nous lever pour dominer et non pas être dominé, pour contrôler les circonstances, quelles qu'elles soient, et non pas laisser les circonstances nous contrôler et nous empêcher de vivre pleinement le plan de Dieu. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons régner véritablement dans la vie, par le Christ évidemment. Et c'est ce que nous allons voir, vous voyez. Et dans cette dynamique de renouvellement, de restauration spirituelle, de réveil spirituel, le Seigneur nous a inspiré ce triangle, le triangle de la grâce dans lequel se trouve notre assemblée. Et ce que nous sommes en train de vivre, eh bien, est déjà un des résultats de toutes ces prières qui montent en rapport avec cette vision que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Ces quelques perturbations, tout cela n'est pas le produit du hasard. Tout cela est fait pour nous décourager. Mais nous n'allons pas nous laisser décourager. Et nous prions. Sachez que nous sommes dans un triangle où il y a des entités spirituelles qui sont à la base du désordre tout autour, à la base des vies détruites dans ce triangle. Et depuis vendredi, nous sommes en train de mettre le feu à ce triangle. Alléluia. Je reviendrai avec plus de détails. Car nous voulons maintenant entrer dans la saison où même notre intercession se fait de manière stratégique. Pas nous éparpiller. Seigneur, nous prions pour ceci, de manière générale. Mais nous voulons avoir des intercessions revêtues de l'autorité de Dieu qui sont ciblées parce que le Seigneur nous a révélées. Alléluia. C'est ainsi que depuis, je vous avais dit que nous allions trouver des noms pour les différents hangars, n'est-ce pas? Il y en a trois. Celui qui nous accueille, le premier, puisqu'il y a l'autre qui nous accueille également, qui recevra en son temps le nom. J'ai hésité longtemps, mais je n'ai pas voulu donner le nom, parce que moi je le veux. La Bible est remplie de noms, n'est-ce pas? Je pouvais donner le nom à ce hangar Golgotha, c'est biblique, non? Maranatha, c'est biblique, non? Quoi encore? Horeb, c'est biblique. Sinaï, c'est biblique. Gilgal, Rama, tous ces sites, une identité pour ces hangars-là. C'est-à-dire quand nous sommes dans ces hangars, eh bien nous savons que nous sommes quelque part. Et que l'esprit qui a agi dans le passé, dans cet endroit-là, puisse agir aujourd'hui dans ce hangar. Et donc le hangar, nous allons écrire cela, ça s'appelle désormais les Nayotes. Les Nayotes. Nous verrons au pluriel. Benayot, Barama. C'est à Rama, lieu d'habitation du prophète Samuel. Et là, il y a ce qu'on appelait un coin les Nayotes. Et là, l'Esprit de Dieu agissait de manière formidable. Même ceux qui y allaient avec de mauvaises intentions, quand ils y arrivaient, le Saint-Esprit les saisissait. Alors, si vous voulez en savoir davantage, venez le vendredi. Alléluia. Alors, si vous ne pouvez pas venir, soyez en communion avec nous. Nous voulons désormais arrêter avec des prières mécaniques. Des réunions où, marquées par la routine, on vient, on s'assied. Prions ceci. Amen, amen. Nous allons passer écoute à la parole de Dieu. Amen. Quelquefois, nous sommes non. Mais nous voulons qu'à chaque fois que nous sommes là, que le Seigneur nous laisse conduire. Acclamons son nom. Je reviens à le grand thème, le sujet principal qui va nous occuper pendant plusieurs dimanches, l'autorité de Dieu et l'Église de Jésus-Christ. Nous allons pendant plusieurs dimanches développer développer au travers de différents thèmes ou sous-thèmes, et le tout en rapport évidemment avec cette principale pensée, à savoir l'autorité de Dieu et l'Église de Jésus. Et c'est là que nous allons voir la différence entre la puissance et l'autorité. Alléluia. Oui, nous allons comprendre. C'est quoi l'autorité et c'est quoi la puissance? Parce que certaines versions de la Bible ont traduit à tort, je le dis, partout ils trouvaient le nom ou le mot exousia en grec par puissance. Alors qu'il y a en grec un mot qui désigne la puissance, c'est le terme dynamis, qui a donné dynamique et tout ça. Et nous verrons ce qu'est la différence. Alléluia. Et donc, pour démarrer cette série d'enseignements, nous allons parler d'abord de l'Église de Jésus. Voyez-vous, cette Église qu'il bâtit depuis 2000 ans, qu'il bâtit avec des matériaux qui n'ont rien à voir avec tous les matériaux que nous trouvons dans les carrières ici sur Terre, qui n'ont rien à voir avec les briques, non, mais celles qu'il bâtit par le Saint-Esprit au moyen de sa parole infaillible. Alléluia. Il est donc important, dans un premier temps, que nous comprenions la nature singulière, la nature particulière de ce que la Bible appelle l'ecclésia, qui est devenu en français « église ». Il faut que nous comprenions quelle est la mission de cette ecclésia, de cette église que le Seigneur bâtit. Est-ce qu'il a bâti en vain pour s'occuper, pour passer un peu du temps? Parce qu'il sait mieux que quiconque qu'il faut être actif, parce que lui, il est actif depuis de toute éternité, n'est-ce pas? Quelle est sa mission? Quel est son rôle ici-bas? Quels sont ses rapports avec le monde qui nous entoure? Quand je dis le monde qui nous entoure, le rapport avec la société dans laquelle nous vivons, le rapport avec les différentes sphères de notre vie, voyez-vous, la sphère conjugale, pour ceux qui sont mariés, la sphère familiale, le rapport avec le monde dans lequel nous nous trouvons. Lorsqu'il est question, évidemment, de cette Église-là, il y a plusieurs questions qui peuvent surgir, questions auxquelles nous allons tâcher tout au long de ces enseignements d'y répondre. La première, de quelle Église s'agit-il? Car on a beau enseigner, on a beau demander aux gens de lire, de méditer la parole, de se reposer uniquement, totalement, sur les Saintes Écritures, ah non, on laisse d'autres pensées, d'autres enseignements qui n'ont aucun lien avec la parole de Dieu envahir nos esprits et nous perturber quant à la définition de cette Église-là. Oui, cette Église qu'il construit, qu'il bâtit, qui en fait partie? Est-ce que le fait de faire partie d'une assemblée qui se réclame de Jésus, le fait de fréquenter un lieu qu'on appelle église ou assemblée chrétienne, suffit pour faire partie de cette église? Et alors qu'on fait partie de cette église, que lui bâtit, que lui construit, peut-on connaître l'appel qu'il adresse à ceux qui font partie de son église? La mission qu'il attend d'eux? Le rôle de cette Église sur cette terre, dans la société notre pays. Voyez-vous? Faites d'appartenir au royaume de Dieu, puisque cette église-là fait partie du royaume de Dieu. Le fait que nous ayons cette, nous qui appartenons à cette église, de par la nouvelle naissance, ça nous le savons, le fait d'appartenir au royaume de Dieu, de par notre appartenance à l'église du Seigneur, le fait d'avoir cette dignité d'enfant de Dieu, d'avoir cette citoyenneté céleste, la Bible formelle, notre cité est où? Là-haut. Elle est céleste. Nous n'avons rien à voir avec tout ce qu'il y a sur cette terre. Oui. Est-ce que le fait d'avoir une citoyenneté céleste entraîne-t-il, suivez-moi, c'est une question importante, entraîne-t-il ipso facto la perte de notre identité nationale? Le fait que nous appartenions à une nation, le fait que nous appartenions à une famille, le fait que nous soyons dans la société, tout en étant membre du royaume de Dieu, est-ce que ce fait-là nous coupe de cette identité-là, nationale, familiale ou autre, au point où nous pourrions croire que la raison, notre raison d'être en tant qu'enfant de Dieu serait uniquement de nous préparer pour le ciel? Ça, ce sont des conceptions qu'on trouve un peu partout, n'est-ce pas? Voilà. On a dit non. La politique, ce n'est pas pour nous. C'est vrai, mais attention. Il faut relativiser ces propos. Voilà. Oui. La foi, c'est quelque chose de personnel. Non! Ça, c'est la ruse du diable, nous le verrons. Nous avons un rôle à jouer dans la société. Alléluia. Nous avons un rôle important à jouer dans toutes les sphères de la vie. Alléluia. Mais l'ennemi a fini par nous convaincre, à partir de certains passages mal interprétés, à croire que nous sommes des citoyens célestes. Nous devons oublier le monde. Voyez-vous? Et même quand nous prions pour notre pays, nous le faisons, mais en disant, bon, de toute façon, il y a le ciel qui nous attend. Oui ou non? Ou alors, nous le faisons parce que tout le monde le fait. Voilà, on rassemble quelques personnes, nous allons prier pour le pays, mais c'est l'homme qui est mis à l'honneur. Pourquoi? On a mentionné que tel honorable invite toutes les églises ici pour prier pour la nation et en grand le nom de l'honorable. Posez un peu la question à cet honorable-là, qu'est-ce qu'il cherche? Je voudrais vous faire réfléchir, car la foi chrétienne est une foi rationnelle. Le fait d'appartenir au Seigneur ne veut pas dire que nous avons débranché notre cerveau, que nous avons tourné le dos à la critique objective et constructive. Mais dans la plupart des cas, c'est pour se mettre en évidence. Car si c'est vraiment Dieu qui vous a inspiré, pourquoi vous devez mettre votre nom? Pourquoi vous ne pouvez pas rassembler quelques personnes en disant, le Seigneur m'a mis à cœur, nous allons nous retirer à la borne, nous allons nous retirer dans telle église, nous allons chercher la face de Dieu. Vous pensez, il faut que nous fassions la publicité pour que Dieu entende nos prières? Je vous pose la question. C'est que derrière cette démarche, il y a une autre motivation. On cherche à envoyer un signal pour dire, nous au moins, on se soucie du pays. On rassemble les églises, et puis hop, on leur demande d'intercéder. Ce n'est pas de la magie. Nous allons le voir. La vraie intercession, elle se fait sous l'autorité de Dieu. Et quand elle est revêtue de l'autorité de Dieu, je vous assure, l'ennemi, même visible, recule. Mais dans la plupart des cas, nous passons du temps, et puis après, à la fin, nous avons une conscience tranquille. Oh là là, nous avons prié. Oui, c'est bien, Dieu entend la prière. Mais pour quel résultat? Tant grandes questions auxquelles nous tâcherons d'y répondre tout au long de cet enseignement. Et pour aujourd'hui, et nous allons démarrer aujourd'hui avec le premier sous-thème ou le premier thème en rapport avec ce sujet principal sur l'autorité et l'Église de Jésus-Christ, notre premier thème est l'Église de Jésus et sa révélation dans l'espace et dans le temps, j'ajoute. Comment nous est-elle révélée? On a besoin de plus que de l'intelligence humaine. On a besoin de plus que de la puissance cérébrale pour comprendre ce qu'est l'Église de Jésus, pour comprendre quelle est sa mission, pour comprendre le rôle que cette Église est appelée à jouer sur cette terre, rôle qu'elle joue depuis qu'elle a commencé son existence à Jérusalem, en ce jour-là, ce jour de la Pentecôte. À partir de ce moment-là, lisez la parole de Dieu. Vous allez voir comment l'Église va envahir toutes les sphères de la vie. Comment ils vont secouer tous les systèmes politiques reposés sur des puissances des ténèbres. C'est vrai, ils en ont payé le prix. C'était à l'époque de l'Empire romain, on les a arrêtés, on les a jetés en pâture aux bêtes sauvages. Le sang des chrétiens a coulé dans Rome. Ils se sont posé des questions, Seigneur, où es-tu? Oui, le Seigneur en son temps. Ils sont morts, ils sont partis. Mais le Seigneur a continué son œuvre. Ça a duré quelques siècles. Et puis, cet ogre qu'était l'Empire romain, cet aigle de fer qui a maintenu les nations dans ses griffes destructrices, un jour, qu'est-ce qui est arrivé à Rome? Rome est tombée. Aujourd'hui, on parle du reste de l'Empire romain. Tout a éclaté. Dieu travaille. Il a son temps. Et comme pour narguer les ténèbres, pour narguer cet empire avec tous ses empereurs, c'est à Rome qu'il y a ce qu'on appelle la cité du Vatican. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, peu importe ce que les uns et les autres pensent. Mais il y a au moins le nom du Christ qui est associé à cet endroit-là, oui ou non? Là où le sang des martyrs a coulé, là où on les a brûlés, là où on les a accusés faussement qu'ils avaient été à la base de l'incendie qui avait ravagé Rome, à l'époque de Néron, là où ils étaient comme des juifs, des sous-hommes, eh bien là, un jour, c'est la croix du Christ qui a été dressée. Et depuis des siècles, d'une manière ou d'une autre, ce lieu est associé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, ce qui y est fait, ça sera mon problème. L'Empire romain est disparu. L'Église fonctionne de cette manière. Alléluia. Nous en reparlerons. Le texte que nous avons lu, qui nous est familier, à chaque fois qu'il est question de l'Église de Jésus, c'est Matthieu 16, 13 à 19. Matthieu 16, 13 à 19, nous lisons. Jésus arrivait sur le territoire des Césarées et de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Vous voyez, il y avait à l'époque plusieurs opinions concernant le Seigneur. Chacun y allait de sa compréhension. Voilà, ah tiens, ça doit être Jérémie. Parce que Jérémie fut un grand prophète. Ça doit être ceci. Voyez? Ou l'un des prophètes. Ils répondirent, oui, Jean-Baptiste, d'autres Élie, etc. Mais vous, il y a ce que les uns et les autres disent. C'est comme aujourd'hui, à propos de l'Église. Alléluia! Il y a ce que les uns et les autres disent à propos de l'Église de Jésus. À propos de ce qu'ils pensent. concernant l'église de Jésus. Mais comme à cette époque-là, le Seigneur a la question. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Il a répondu, tu es le Christ, oh alléluia, le Fils du Dieu vivant. Même le chauffeur, sans le savoir, vient de dire Amen. Ah, vous voyez, hein? Et apprenons à déceler aussi de bonnes choses derrière tous ces klaxons. Juste au moment où on dit, tu es le Christ, pimpin. Le Fils du Dieu vivant, Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car, et ça c'est important, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ah, c'est donc sur révélation que Pierre a fait cette déclaration. Ce n'est pas à cause de ton intelligence. Ce n'est pas à cause de ta puissance cérébrale. Ce n'est pas à cause de ta piété. Ce n'est pas à cause de tes progrès religieux. Simon, tu es heureux? Ah. C'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Ce n'est pas ces choses-là, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. La révélation à propos de qui est Jésus. Et de cette révélation, maintenant le Seigneur va donner une autre révélation. Voyez-vous, que dit-il? Il reprend la parole et il dit, verset 18, nous continuons. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Pétros, en grec, et sur cette pierre, sur cette pétra, sur ce rocher, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts, littéralement les portes de l'enfer, nous parlerons des portes, ne prévaudront pas. L'emporteront pas sur l'église, ne prendront pas le dessus sur l'église. Il faut que nous le comprenions. Il bâtit l'église ici-bas et il montre le contexte spirituel dans lequel il bâtit son église. Il dit qu'il y a des portes de l'enfer et c'est là, dans ce monde, mes amis, infesté des forces du mal, des démons, des hôtes, des ténèbres, des esprits des abysses, que lui, le Seigneur de gloire, bâtit son église. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume. Nous parlerons de ces clés. C'est très important. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Gloire au Seigneur. Première révélation concerne le Seigneur lui-même. Qui il est? Il a fallu l'intervention du Père Céleste pour que Pierre comprenne. Si, il savait. Il savait qu'il était Messie, tout ça. Il avait suivi, il avait compris. Mais une compréhension intellectuelle était insuffisante. En cet instant précis, le Père lui a donné cette révélation. Tu es le Christ, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu, tu es d'origine divine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et puis, la deuxième révélation concerne l'Église. Sur cette pétra, sur cette Église, et plutôt sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon Église. Je te donnerai. Il y a le roc sur lequel il bâtit, et puis il continue en disant, je te donnerai les clés du royaume pour ouvrir et pour fermer. Alléluia. Pour lier et pour délier. C'est très fort. Mais combien de fois nous avons lu ce passage de manière superficielle? Et c'est ce qui explique que nous menons une vie marquée par toutes sortes d'échecs, des défaites, des plaintes, des jérémiades, des plaintes sans cesse. Voilà. Nous sommes résignés, nous nous laissons porter par les circonstances. Et pourtant, tout est là, comme nous le verrons. L'Église de Jésus. L'Ecclésia du Christ. Mes amis, quand nous parlons de cette Église, je parlerai beaucoup d'Ecclésie. Quand nous parlons de cette Église, il est donc important de le savoir tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une dénomination religieuse quelconque, comme il y en a un peu partout dans le monde. Je ne parle pas d'un mouvement ou d'un regroupement ou de plusieurs regroupements religieux qui revendiquent souvent, et malheureusement pour eux seuls, cette appellation d'Église. Ils pensent qu'ils ont le monopole. Vous avez déjà entendu, non? Ils pensent que, ah oui, mais vous, non, vous n'êtes pas l'Église. C'est nous l'Église. C'est incroyable. Vous êtes les bizambizambi. Voilà. L'Église, c'est nous. Ils ont même des sièges avec leur chef qui dirige leur mouvement, qui dirige toutes ces structures religieuses. Oui, certains groupements religieux, certains rassemblements d'églises vont même jusqu'à jeter, hélas, l'anathème sur les autres, sur tous ceux qui utilisent, mes amis, le nom Église, prétendant que c'est à eux seuls que revienne cette appellation. Quelle absurdité, quelle aberration, quelle ineptie, quelle folie. Eux seuls sont l'Église, avec des chefs, des organisations bien structurées, avec des ramifications un peu partout. Et à la tête, un individu souvent imbu de lui-même. Un individu hautain. Certains ne peuvent pas être approchés comme ça. Il faut se mettre à genoux. Il faut avancer à genoux. Oh Dieu, viens à notre secours. Voyez, on les adule. On les adore. Évidemment, ils ne vous diront pas qu'on les adore. Oh, nous les révérons. Voilà, ils jouent un tout petit peu sur cette espèce, sur des techniques de la casuistique. Nous les reverrons, mais nous ne les adorons pas. Nous les respectons, etc. Voyez? Mais au fond, ces individus-là occupent la première place dans leur organisation. Tout tourne autour d'eux. Ils occupent par le même temps la première place dans le cœur de tous leurs fidèles. Voyez-vous? Et ceci, mes amis, cette approche sectaire, cette approche erronée de la notion de l'Église de Jésus-Christ a fait beaucoup de victimes à travers les âges. Il y a eu beaucoup de persécutions. Et encore aujourd'hui, il y a certains coins de la République où vous avez certaines églises bien établies avec une connotation ethnique. Oui ou non? Voilà. Et si vous n'êtes pas de cette ethnie, je sais. On a essayé d'ouvrir les églises à la borne dans certains coins, mais c'est de la persécution. Dommage. Oui, dans cette série de prédications, il va bien être question de l'Église de Jésus, telle que la parole de Dieu, telle que les Saintes Écritures la décrivent, la définissent. L'Église telle qu'elle nous est révélée dans la parole de Dieu, dans l'enseignement de Jésus, et à la suite de Jésus, dans l'enseignement des apôtres. Et donc, le Nouveau Testament sera notre base de réflexion, sera, mes amis, la base de notre prédication. Nous partirons du Nouveau Testament pour comprendre ce que ça veut dire l'Église, sa mission, son rôle sur cette terre. Et gloire à Dieu, alléluia. Car, lorsqu'il est question de l'Église, je vous le rappelle, pour beaucoup de nos contemporains, il y a de quoi y perdre son latin. Comme on dit, C'est incompréhensible. Chacun y va de sa définition, chacun y va de sa compréhension, selon son appartenance à tel mouvement, selon l'enseignement reçu dans le mouvement, selon l'enseignement reçu dans la religieuse, chacun a fini par développer une vision, une image de l'Église qui est souvent, malheureusement, aux antipodes de la vision de l'Église telle que nous la trouvons. Dans l'Église telle qu'elle nous est révélée à travers la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Cette image est très importante. Quelle image avons-nous de l'Église quand nous parlons de la borne? Qui voyons-nous en premier? Cela est important, car cette vision, lorsqu'elle est erronée, lorsqu'elle est sectaire, elle est déficiente, eh bien, elle ne peut nous mener nulle part. Et souvent, elle est erronée, elle est fausse, elle est débridée, déficiente, parce qu'elle est basée sur une mauvaise interprétation de l'enseignement du Seigneur, des déclarations de Jésus et de l'enseignement des apôtres. Elle est basée, malheureusement, cette vision-là, sur la méconnaissance des vérités bibliques relatives à l'Église de Jésus-Christ, relatives à sa nature singulière, relatives à sa relation particulière avec son chef, qui n'est pas un homme, qui n'est pas un archange, mais qui est le Seigneur lui-même, lui le chef suprême de l'Église. Oui, tout cela, mes amis, a fini par provoquer toutes sortes de problèmes parmi les chrétiens. Cette fausse vision, cette vision erronée, est à la base de la confusion, du désordre qui règne en milieu chrétien, dans nos assemblées, du chaos moral, de l'anarchie spirituelle, de la déliquescence. Dans le vrai terme de nos assemblées, mes amis, et toutes ces choses-là, dues à cette mauvaise interprétation de la parole de Dieu par rapport à l'Église, dans la manière dont l'Église doit être structurée, dans la manière dont l'Église doit fonctionner, dans la manière dont, eh bien, l'Église doit évoluer, toutes ces choses-là finissent et ont ouvert la porte, mes amis, à l'influence malsaine, malfaisante du monde, mais aussi à la séduction de Satan. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'assemblées tournent en rond. Ils ont toujours le nom du Seigneur, les chrétiens de ces assemblées, le nom du Seigneur dans la bouche. Le pasteur lui-même, eh bien, a toujours le nom du Seigneur dans la bouche. Mais au fond, celui qui est la pierre angulaire, lui le pasteur, lui le bishop, lui l'archebishop, celui qui est la pierre angulaire de l'assemblée. Tout tourne autour de lui. Tout gravite autour de lui, de sa femme et de sa famille. Et un tout petit peu de sa famille biologique. Les oncles. Tous les oncles sont des diacres. Pour être diaconesse, il faut faire partie du cercle très restreint de la famille. Vous avez déjà entendu ça, non? Vous avez même vu ça. Voyez-vous, c'est ce qui arrive. Et les conséquences sont plus que terribles par rapport à toutes ces assemblées. Les conséquences sont terribles pour nos églises, où les gens se battent pour se positionner, où les gens sont prêts à acheter les voix des autres pasteurs pour qu'ils puissent contribuer à leur élection à la tête du district, à la tête de la province, à la tête du mouvement. On voit ça. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai lu un article sur un mouvement qui a pignon sur rue, ici à Kinshasa, ou peut-être même dans cette province, où il y a maintenant la guéguerre entre un nouveau représentant, eh bien, élu au suffrage universel selon eux, et puis l'ancien, qui lui considère que comme celui qui a commencé le mouvement, eh bien, il ne peut pas partir. Alors c'est la guéguerre. Voyez? Parce que, avec le temps, on a fini par acquérir des biens immobiliers. Combien ont spolié les terrains des églises? Combien, mes amis? Et ils se disent, pasteur, Ils sont toujours bien habillés, toujours tirés à quatre épingles. Voilà. Voilà. Ils sont prêts à s'habiller comme des clowns. Ce n'est pas un problème. Mais ce sont des bishops. Ce sont des quoi des bishops? Voilà. Voyez? Combien? Et à cause de tout cela, nos églises se fossilisent. Nos églises se momifient. Nos églises deviennent comme des chambres froides, lieu de la mort. Si vous allez dans une chambre froide, vous n'allez pas trouver les poissons qui bougent, hein? Oui ou non? On les entretient pour être mangés, c'est tout. Et beaucoup de nos assemblées sont devenues des lieux de congélation. Les gens sont là. Spirituellement, ils sont morts. Mais ils dansent. La danse du ciel. Je ne sais pas s'il y a une danse du ciel. Moi, j'aimerais bien que vous m'en dites comment cette danse se danse. Comment faire? Quel membre bouger? Selon le ciel. Quand on ne vous voit pas danser, non, frère, vous êtes charnel. C'est incroyable. Alors quand on le regarde, c'est vraiment la chair qui se manifeste. Des danses lascives. On ne tient pas compte du caractère sacré du lieu où on est. Voilà, on se trémousse comme à l'époque du Sakayons. Voilà. On se trémousse comme les Atalaku. À l'époque, je ne sais pas s'il y en a encore, hein, c'est du passé ça. Vous voyez, mes amis, devons faire très attention. L'Église n'est plus le sel de la terre. L'Église n'est plus la lumière du monde. N'importe qui peut prendre la parole dans l'Église. Le bourgmestre vient vous visiter pour avoir un peu ses faveurs. Nous avons la joie, le plaisir, le bababababa, d'accueillir le bourgmestre. Excellence le bourgmestre, vous pouvez venir un peu. Et lui se lève. Ou alors il fait semblant d'être humble. S'il avait été humble, il l'aurait refusé. Elle dit, pasteur, non, ici, derrière la chair, c'est lui. Alléluia. Le fait qu'il se lève là, ce n'est pas l'idée. Comment les gens sauront-ils que celui, l'autorité de la commune? Il y en a d'autres. Eux, ils ne s'en cachent pas. Ils sont au moins vrais, ils ne sont pas hypocrites. Excellence, monsieur le bourgmestre. Ah, ok. Et le pasteur, ça va? Alléluia. Vous répartez avec une malédiction. Moi, je ne vous permettrai pas cela parce que je vous aime. Ça, je vous l'ai dit. Ce lieu-ci, celui qui a commencé cette œuvre ici, qui l'a commencé là, qui l'a amené ici, qui a permis qu'à travers de cette œuvre, son œuvre prospère à tous égards et partout, celui-là est là. Qui croit qu'il est là? Parce qu'il est là, je dois le respecter. Je me tiens debout parce que il m'a enrôlé.
Alléluia.
Il m'a appelé à parler de sa part. Autrefois, je m'asseyais. C'est mon prédécesseur et mon père spirituel qui parlait. Nous étions là. Tout ça a été, il n'y avait que des vitres. Ça rappelle quelque chose à maman Alphonsine. C'est grâce à elle qu'on avait eu ce lieu. C'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour elle. Ouais. C'est un autre qui parlait. Mais il ne parlait pas parce qu'il était Mundele, comme lui-même avait l'habitude de le dire. Non, il parlait parce qu'il avait une mission. De la part de qui? De lui. Et puis nous sommes venus ici. Lui. L'autre par excellence. L'ancien des temps et des jours. Est venu avec nous ici. Celui à qui il avait confié cette mission, il est arrivé au terme de sa mission. Lui, l'autre, lui a dit, mon fils, maintenant viens te reposer. En 2011, il a repris auprès de lui. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes là. Nous aussi, nous passerons. Quelqu'un d'autre viendra. Celui-là aussi, pas, mais l'autre. Alléluia. L'autre est toujours là. Celui que nous devons craindre. Celui, mes amis, car ignorance ou pas, en ce jour-là, lui le juge des nations, lui le juge des hommes, en ce jour-là, assis sur son trône blanc, il n'y aura pas d'excuse. Il n'y aura pas d'excuse. On n'ira pas, mais oui, mais c'est le pasteur qui m'avait demandé. Non, aucune excuse. Voyez, d'où le respect. Quand je vais dans un bureau où il y a un responsable, j'ai du respect pour lui. Alléluia. Je vais chez telle autorité, j'ai déjà eu l'occasion. J'ai le respect. Je ne suis pas à la borne. Je ne suis pas dans une église. Je suis dans une enceinte qui accueille une autorité et je me plie au protocole. Oui ou non? Je m'assieds. Je ne veux pas arriver, monsieur, garde, viens. Va dire à son excellence que je suis là. Mais vous pouvez vous asseoir, dis-lui, je suis son pasteur. Non. Voyez. Mais malheureusement, certains ont démissionné. Vous avez des autorités, c'est très bien. Les choses ont évolué. Vous qui avez une once de pouvoir, vous devez savoir que les choses ont évolué. Dans les années 70, les années 80, un commissaire d'État, c'était un commissaire d'État, hein, avant pour le jeune, c'est-à-dire un ministre. Bouyba Yangote. Voyez-vous? Voilà. Beaucoup de respect, beaucoup de distance. Et cela leur avait permis de se croire déjà au ciel. Certains, je ne les ai jamais vus sourire. Un général tel, on avait des grands généraux, il est là. J'ai inconnu même qui insultait ses soldats. Je ne veux pas reproduire les insultes. Toi ceci, mon général. Toi cela, mon général. Vous voyez? Mais ils sont tous passés. Alors vous, vous avez beaucoup évolué, je vous en remercie. Je sais que parmi nos autorités, il y a beaucoup qui ont compris le respect dû aux hommes de Dieu. N'est-ce pas? Le respect dû au lieu consacré au Seigneur. Et je rends grâce à Dieu. Les choses ont beaucoup évolué. À l'époque, c'était rare d'avoir ne serait-ce que le directeur d'une entreprise, hein, d'avoir un DG à l'église. Et quand on en avait un, tout le monde avait le... C'est le DG. Oui ou non? Voilà. Et ça devenait un sujet. Un sujet à la... Ah, vous savez quoi? Ah, frère, ça va? Oui, très bien, vous parlez d'autre chose. Mais le commissaire d'État était à la chez nous à Borne, hein? Ah bon? Oh là là. Comme si la présence du commissaire d'État avait apporté une plus-value. Non, il est venu. Il avait besoin de Dieu. Alléluia. Mais vous avez compris tout cela. C'est très bien. Mais ne tombez pas dans l'autre extrême, où vous n'avez même plus d'autorité que vous avez, que l'État vous donne, vis-à-vis de certains pasteurs, qui vous tutoient, oui ou non? Qui passe quand ils vous voient, dit non, mais moi je suis le fils du prince et tout ça. Oui, mais soumettez-vous aux autorités, non? Bref, nous allons terminer. D'où l'importance, mes amis, c'est que l'Église, dans la relation biblique, de bien connaître toutes les vérités qui tournent autour et alentour de cette révélation de l'Église, telle que le Seigneur nous donne, telle que l'enseignement du Seigneur, comment nous donne la lumière et des apôtres. Et le dimanche prochain, cette fois-ci, nous allons entrer de plein pied. dans ce passage et où nous allons voir d'emblée toutes les vérités. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Nous inclinons nos têtes dans la prière.